8. Très majoritaire chez les malades, il est très peu vraisemblable que vous soyez atteint de la maladie cœliaque. Intolérance au lactose et malabsorption du fructose. Quand on parle d'intolérance au lactose, il ne s'agit en réalité ni d'une allergie, ni d'une véritable incompatibilité. Cependant, comme en cas d'allergie, la nourriture ne peut pas être décomposée complètement en ses différents éléments. Le lactose est un glucide présent dans le lait. Il est composé de deux molécules liées entre elles par une liaison chimique. L'enzyme digestive qui les dissocie, la lactase, ne vient pas de la papille duodénale, ce petit trou dans la paroi intestinale par lequel sont projetés les sucs digestifs. Elle est fabriquée par les cellules de l'intestin grêle elles-mêmes, à leur extrémité, au niveau de leur plus petite villosité. Quand il entre en contact avec la paroi intestinale, le lactose se dégrade et les différentes molécules de sucre peuvent alors être assimilées. Sans lactase, les désagréments qui surviennent sont proches de ceux causés par une intolérance ou une sensibilité au gluten. Maux de ventre, diarrhée ou encore ballonnement. Mais à l'inverse de ce qui se passe pour les désordres associés au gluten, les particules de lactose mal assimilées ne traversent pas la paroi intestinale. Elles se contentent de glisser le long de l'intestin grêle et de rejoindre le gros intestin où elles nourrissent des bactéries productrices de gaz. Les ballonnements et autres réjouissances sont pour ainsi dire les remerciements que nous fait parvenir une population de microbes trop bien nourris. Si ce n'est pas très agréable, j'en conviens, l'intolérance au lactose reste cependant bien moins grave qu'une maladie cœliaque non dépistée. Chacun de nous est pourvu d'un gène dédié à la digestion du lactose. Dans de rares cas, il arrive que les problèmes commencent dès la naissance. Les nourrissons touchés ne peuvent pas boire de lait maternel sans souffrir aussitôt de violentes diarrhées. Chez 75% des êtres humains, le gène se désactive progressivement au cours des années. Après tout, à partir d'un certain âge, nous ne sommes plus censés nous nourrir en susautant un sein ou la tétine d'un biberon. Au-delà des frontières de l'Europe de l'Ouest, de l'Australie et des États-Unis, les adultes supportant encore la consommation de lait sont rares. Et même sous nos latitudes, les produits sans lactose se multiplient dans les supermarchés. À en croire les statistiques, en Europe du Nord, jusqu'à 15% de la population pourrait être concernée par cette intolérance. Plus on vieillit, et plus la probabilité de ne plus pouvoir dissocier le lactose augmente. Mais à 60 ans, on ne pense pas forcément que ce ventre ballonné ou cette petite diarrhée sont la conséquence du traditionnel verre de lait de 4 heures ou de la délicieuse crème qui nappait l'escalope. Cesser du jour au lendemain de consommer du lait serait cependant exagéré. Dans la plupart des cas, la lactase est encore présente dans notre intestin, même si son activité est réduite. Les enzymes qui permettent de dissocier le lactose travaillent à, disons, 10-15% de leur capacité d'origine. Si vous constatez que vous digérez mieux en renonçant à un verre de lait, rien ne vous empêche de tester par vous-même la quantité que vous tolérez et à partir de quand ça se gâte. Bien souvent, un morceau de fromage, une goutte de lait dans le thé ou un peu de crème anglaise avec le gâteau au chocolat ne devrait pas poser de problème. Il en va de même avec une autre intolérance alimentaire très répandue, la malabsorption du fructose, un sucre qu'on trouve notamment dans les fruits. Comme pour l'intolérance au lactose, ce trouble fonctionnel intestinal existe aussi sous une forme sévère congénitale, la fructosémie, ou intolérance héréditaire au fructose, qui génère des problèmes digestifs dès la plus petite quantité de fructose absorbée. La plupart des gens, cependant, souffrent plutôt d'un problème dû à un excès de fructose. Pourtant, ce sucre qu'on trouve notamment dans les fruits, il devrait être bon, non ? On ne sait souvent pas très bien ce que c'est, et sur les emballages des produits alimentaires, la mention « contient du fructose » nous donne l'impression d'acheter un produit meilleur pour la santé que s'il y figurait « contient du sucre ». L'industrie agroalimentaire se fait donc un plaisir d'ajouter du fructose pur à ses produits et contribue elle aussi à ce que notre alimentation soit plus riche en fructose que jamais. Pour beaucoup, une pomme par jour ne pose aucun problème. S'il n'y avait pas aussi le ketchup sur les frites, le yaourt sucré aux fruits et la soupe en briques qui, tous, contiennent du fructose. Ou encore certaines tomates, spécialement cultivées pour développer une forte proportion de fructose. Pour couronner le tout, nous faisons face aujourd'hui à une offre de fruits qui, sans globalisation ni transport aérien, n'existerait nulle part sur la planète. En hiver, les ananas des zones tropicales voisinent sur nos étals avec les fraises fraîches des serres hollandaises et quelques figues séchées du Maroc. Ce que nous faisons entrer dans la catégorie d'une intolérance alimentaire, ce n'est donc peut-être que la réaction tout à fait saine d'un corps qui, en l'espace d'une génération, a dû s'adapter à une alimentation telle qu'elle n'a encore jamais existé. Le mécanisme qui se cache derrière l'intolérance au fructose n'est pas le même que pour le gluten ou le lactose. Les personnes qui souffrent d'une intolérance congénitale ont dans leurs cellules peu d'enzymes permettant l'assimilation du fructose. Le fructose peut donc se concentrer petit à petit dans les cellules et entraver d'autres processus. Dans le cas d'une sensibilité qui se développe plus tard, on suppose que le problème se situe plutôt au niveau du transport. Chez ces patients, les canaux de transport du fructose, les transporteurs GLUT5, sont souvent moins nombreux. Quand ils ingèrent une petite quantité de fructose, par exemple en mangeant une poire, les canaux de transport sont aussitôt saturés et le sucre de la poire, selon le même schéma que dans une intolérance au lactose, rejoint la flore intestinale dans le gros intestin. Aujourd'hui, certains chercheurs se demandent si le nombre réduit de canaux de transport est vraiment à l'origine du mal, puisque des sujets sans troubles digestifs envoient eux aussi une partie du fructose non digéré dans le gros intestin, surtout quand ils ont un peu trop forcé sur la dose. Alors pourquoi le fructose cause-t-il des ennuis à certains et pas à d'autres? L'une des causes probables se trouve dans la composition de la flore intestinale. Notre mangeur de poire envoie le fructose excédentaire à une certaine catégorie de bactéries intestinales qui l'utilisent pour générer tout un tas de symptômes gênants. Un phénomène qui s'accentue proportionnellement à la quantité de ketchup, de yaourt aux fruits ou de soupe en briques qu'on a avalé avant. Quand le fructose est mal absorbé, le moral peut même en prendre un coup lui aussi. Grâce au sucre, de nombreuses autres substances nutritives sont en effet assimilées dans le sang. L'acide aminé tryptophane, par exemple, aime se lier au fructose pendant la digestion. Mais si la quantité de fructose que nous avons dans le ventre est trop importante pour être assimilée dans son ensemble, nous nous en débarrassons et perdons du même coup celui qui s'est accroché à ses baskets, le tryptophane. Or, le tryptophane nous est aussi utile pour produire de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce neurotransmetteur qu'on surnomme aussi l'hormone du bonheur, parce qu'une carence peut engendrer des dépressions. Non décelée, une malabsorption du fructose qui dure depuis plusieurs années peut donc tout à fait être la cause d'humeurs dépressives. C'est là une découverte récente qui se ferait peu à peu un chemin jusque dans les cabinets médicaux. À nouvelle découverte, nouveau questionnement. Une alimentation trop riche en fructose pourrait-elle, par exemple, nuire à notre bonne humeur? À partir de 50 grammes de fructose par jour, soit 5 poires, 8 bananes ou environ 6 pommes, les transporteurs naturels sont saturés chez plus de la moitié des gens. Au-delà de cette dose, il pourrait y avoir une incidence néfaste sur la santé, comme des diarrhées, des maux de ventre, des ballonnements, voire, à long terme, un état dépressif. Aux États-Unis, la consommation moyenne de fructose est actuellement de 80 grammes par jour. La ration quotidienne de nos parents, qui sucraient leur thé avec une petite cuillerée de miel, consommaient peu de produits tout prêts et mangeaient des fruits en quantité raisonnable, n'était que de 16 à 24 grammes. La sérotonine n'est pas seulement garante de bonne humeur. Elle est aussi responsable du sentiment de satisfaction que nous éprouvons quand nous sommes rassasiés. Grosses fringales et grignotage continuel pourraient ainsi être une conséquence de la malabsorption du fructose, surtout quand apparaissent aussi d'autres symptômes comme les maux de ventre. Voilà un point qui pourrait également intéresser les mangeurs de salades soucieux de leur ligne. La plupart des sauces salades vendues en supermarché ou servies dans les restaurants contiennent du sirop de fructose-glucose. Des études ont pu démontrer que ce sirop inhibait certains messagers chimiques chargés de la satiété, comme la leptine, y compris chez les personnes ne souffrant pas d'une malabsorption du fructose. Pour le même nombre de calories, une salade simplement assaisonnée d'huile et de vinaigre ou d'une sauce maison au yaourt tient donc bien mieux au ventre. La fabrication des aliments n'échappe pas au principe d'évolution perpétuelle qui gouverne notre univers. Mais voilà, les innovations sont parfois synonymes de progrès et parfois de danger. À l'origine, le salage a par exemple été une méthode révolutionnaire pour empêcher qu'on ne s'empoisonne avec de la viande avariée. Pendant des siècles, il a donc été d'usage de saler abondamment les viandes et charcuteries pour les conserver, ce qui leur donne une teinte rouge et brillante. Voilà pourquoi le jambon, le saucisson ou la palette fumée ne brunissent pas comme un steak ou une côtelette quand on les cuit. En 1980, l'utilisation du nitrite de sodium dans l'industrie alimentaire a finalement été limitée de manière drastique en raison de risques supposés pour la santé. Désormais, la proportion maximale de nitrite de sodium pour les charcuteries s'élève à 100 mg, 1 millième de gramme, par kilogramme de viande. Et depuis, les cas de cancer de l'estomac ont fortement baissé. Il était donc plus qu'indispensable de revoir et corriger ce qui était apparu un jour comme une innovation astucieuse. Pour conserver la viande sans risque, les charcutiers les plus malins utilisent aujourd'hui un mélange de vitamine C et de nitrite, en faible quantité. Alors, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée et remettre aussi en cause notre utilisation du blé, du lait et du fructose? Mettre ces aliments au menu est une bonne chose, car ils contiennent des substances extrêmement utiles. Mais peut-être devrions-nous revoir les quantités que nous ingérons. Tandis que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, mangeaient chaque année jusqu'à 500 variétés de racines, d'herbes et de végétaux, nous nous nourrissons aujourd'hui le plus souvent de 17 plantes utiles. Rien d'étonnant, donc, à ce que notre tube digestif ait du mal à digérer cette évolution. Les troubles digestifs divisent notre société en deux catégories. Dans la première catégorie, on se soucie de sa santé et on surveille très attentivement son alimentation, tandis que dans la deuxième, on commence à en avoir assez de ne plus pouvoir préparer un repas pour des amis sans avoir à passer avant à la pharmacie. Les deux groupes sont dans le vrai. Devant un médecin qui évoque une intolérance alimentaire, beaucoup de patients auront des réactions disproportionnées. Remarquant que leur état s'améliore quand ils s'abstiennent de manger certains aliments, ils supprimeront de leur alimentation tous les fruits, toutes les céréales ou tous les produits laitiers comme s'il s'agissait de produits empoisonnés. En réalité, la plupart des personnes concernées par une intolérance alimentaire ne présentent pas d'allergie génétique complète, mais réagissent à un excès. En général, nous avons tous assez d'enzymes pour pouvoir savourer un peu de sauce à la crème, un morceau de pain blanc ou une salade de fruits. Il n'empêche, une hypersensibilité alimentaire doit être prise en compte. On veut nous faire avaler beaucoup de choses, et notamment de nouvelles habitudes alimentaires. Du blé matin, midi et soir, du fructose dans tous les plats tout prêts, ou du lait bien après que nous avons quitté les jupes de nos mères. Normal que notre corps trouve qu'il en a assez soupé. Non. On n'a pas juste comme ça des maux de ventre ou des diarrhées à répétition. Et ce sentiment de lassitude extrême ne vient pas de nulle part. On peut agir contre ces symptômes. Même si le médecin a pu exclure une maladie cœliaque ou une intolérance au fructose, quand on remarque qu'en réduisant certains aliments consommés, on va mieux, il ne faut pas hésiter à se faire du bien. Au-delà d'un excès général, quelques-uns des facteurs classiques qui peuvent entraîner une hypersensibilité temporaire à certains aliments sont le recours aux antibiotiques, trop de stress ou une gastro-entérite. Mais dès que les choses seront revenues à la normale, nos intestins, même sensibles, peuvent retrouver la forme. Dans ce cas, la solution n'est pas de se priver à vie de l'aliment incriminé, mais de le consommer à nouveau, dans les quantités qui conviennent à notre petit ventre. Chapitre 6. Le carnet scatologique. Composition, couleur et consistance. Cher lecteur, il est temps pour nous d'aller au fond des choses et de la cuvette. Tout sautez, rajustez vos lunettes et prenez une bonne grosse gorgée de thé. Nous allons maintenant faire la connaissance d'un mystérieux petit tas de... mais... composition. Beaucoup pensent que les excréments sont principalement composés de ce que nous avons mangé. Erreur. La matière fécale est aux trois quarts composée d'eau. Chaque jour, nous perdons environ 100 ml de liquide. Pendant un cycle digestif, l'intestin résorbe déjà environ 8,9 litres. Ce que nous voyons au fond de la cuvette des WC est donc le summum de l'efficacité. Le liquide qui est arrivé jusqu'ici n'aurait pas pu se trouver ailleurs. Grâce à un dosage optimal en eau, les selles sont assez molles pour transporter vers la sortie nos résidus métaboliques. Un tiers des matières solides sont des bactéries. Elles ont fait leur temps au sein de la flore intestinale et se retirent donc de la vie active. Un autre tiers est composé de fibres non digestibles. Plus on mange de légumes et de fruits, plus la commission est grosse. La quantité quotidienne de matière fécale peut alors sans problème passer à 500 grammes au lieu des 100-200 grammes de moyenne. Le dernier tiers est un vrai bric-à-brac. On y trouve toutes les substances dont notre corps veut se débarrasser, comme les déchets médicamenteux, les colorants ou le cholestérol. Couleur. La couleur naturelle des selles humaines va du brun au beige, y compris quand nous n'avons rien mangé de cette couleur. Même chose pour notre urine, qui tire toujours sur le jaune. La raison ? Un produit plus qu'essentiel que nous fabriquons chaque jour. Le sang. Chaque seconde, 2,4 millions de globules sont produits. Mais ils sont tout aussi nombreux à être détruits. La couleur rouge qui résulte de cette dégradation vire d'abord au vert, puis au jaune. Un phénomène que l'on peut aussi observer après avoir reçu un coup. Le bleu que nous avons au genou après avoir raté la marche change lui aussi progressivement de couleur. L'urine permet d'évacuer sans détour une petite partie du jaune. La plus grande partie passe par le foie et rejoint l'intestin où des bactéries vont fabriquer à partir du jaune une autre couleur, le marron. La teinte des excréments nous renseigne sur la façon dont se déroule le processus et il peut être très utile de connaître l'origine de couleurs fécales atypiques. Du marron clair au jaune. Cette teinte peut être un effet du syndrome de Gilbert, une maladie bénigne. Une enzyme de dégradation de l'hémoglobine ne fonctionne alors plus qu'à 30%, si bien que les substances colorées parvenant dans l'intestin sont moins abondantes. Le syndrome de Gilbert touche 8% de la population, ce qui fait de lui une maladie assez répandue. Ce n'est pas vraiment grave, puisque le dysfonctionnement de cette enzyme n'entraîne quasiment aucun désagrément. Seul effet secondaire, les patients supportent moins bien le paracétamol et devraient par conséquent éviter d'y recourir. Autre explication pour des selles jaunâtres, les bactéries intestinales ont des soucis. Quand elles ne travaillent pas correctement, elles ne peuvent pas fabriquer de marron. La prise d'antibiotiques ou un épisode diarrhéique, par exemple, peuvent bouleverser la palette de couleurs. Du marron clair au gris. Quand la liaison entre le foie et l'intestin est interrompue ou comprimée, en général en aval de la vésicule biliaire, l'hémoglobine responsable de la couleur rouge du sang ne parvient plus jusque dans les selles. Les routes barrées n'étant jamais une partie de plaisir, en cas de grisaille dans la cuvette, mieux vaut consulter un médecin. Noir ou rouge. Le sang coagulé est de couleur noire, le sang frais de couleur rouge. Cette fois, il ne s'agit pas seulement du colorant qui peut être transformé en marron, et ces couleurs révèle la présence de globules dans les selles. En cas d'hémorroïdes, la teinte rouge clair n'est pas inquiétante. Pour toutes les teintes plus foncées, mieux vaut consulter un médecin, sauf s'il y avait de la betterave au menu d'hier. Consistance. L'échelle de Bristol, qui décrit l'aspect des selles humaines, a été publiée en 1997 et elle est donc relativement récente si l'on songe au nombre de millénaires pendant lesquels nous avons déféqué sans elle. Elle répartit les selles en 7 catégories selon leur consistance. Comme la plupart des gens rechignent à décrire l'aspect de ce que produisent leurs intestins, c'est un outil qui peut s'avérer très utile. J'entends déjà d'ici ceux qui s'insurgent. On a quand même bien le droit d'avoir ces petits secrets, non? Bien sûr, on n'est pas obligé de parler de tout. Mais vous, vous voudriez avoir des selles anormales sans le savoir? C'est ce qui arrive quand on n'a pas d'éléments de comparaison. Une digestion saine, avec au final des selles qui présentent la proportion d'eau idéale, donne un résultat de type 3 ou 4. Les autres catégories ne devraient pas être à l'ordre du jour. Si elles s'invitent trop souvent dans notre cuvette, il peut être utile de consulter un bon médecin et de déterminer avec lui si certains aliments sont mal supportés ou s'il y a quelque chose à faire contre la constipation. La version originale de cette échelle est l'œuvre du médecin anglais Ken Eaton. Type 1. Selles dures et morcelées, en forme de bille, d'évacuation difficile. Type 2. Selles dures moulées, en forme de saucisse, bosselées. Type 3. Selles dures moulées, en forme de saucisse, craquelées à la surface. Type 4. Selles molles mais moulées, en forme de saucisse ou serpentin. On dirait du dentifrice. Type 5. Selles molles morcelées à bord net. Type 6. Selles molles morcelées à bord déchiqueté. Type 7. Selles totalement liquides. Les différentes catégories nous livrent aussi de précieux indices sur le temps qu'il faut à nos intestins pour transporter les résidus alimentaires. Pour le type 1, les résidus ont besoin d'une centaine d'heures pour être évacués, constipation. Tandis que pour le type 7, l'affaire est bouclée en une dizaine d'heures, diarrhée. Le type 4 est considéré comme le nec plus ultra du caca. C'est celui qui présente le meilleur équilibre entre l'eau et les substances solides. Vous venez d'évacuer un type 3 ou 4 dans la cuvette? Observez la vitesse à laquelle votre œuvre s'enfonce dans l'eau. Si elle sombre au fond de la cuvette en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, c'est peut-être qu'elle contient encore beaucoup de nourriture mal digérée. Pour flotter un temps à la surface, les selles doivent renfermer de petites bulles de gaz. Celles-ci proviennent de bactéries intestinales qui, dans la plupart des cas, font du bon boulot. Si vous ne souffrez pas par ailleurs de ballonnement, cette trace de leur présence est donc un bon signe. Chers lecteurs, nous refermons à présent ce carnet scatologique. Vous pouvez vous détendre, vos lunettes peuvent glisser sur le bout de votre nez. L'œuvre du rectum clôt cette première partie. Et nous nous penchons maintenant sur le réseau électrique de notre corps, le système nerveux. Deuxième partie, le cerveau d'en bas. L'inconscient et le conscient voisinent parfois. Je vous donne un exemple. Il est midi et, assis dans votre cuisine, vous déjeunez. Ce faisant, vous ne remarquez pas qu'à seulement quelques mètres de là, dans l'appartement d'à côté, une autre personne, assise dans sa cuisine, déjeune elle aussi. Et s'il vous arrive alors d'entendre le plancher craquer, votre horizon s'élargit soudain au-delà de vos quatre murs, au-delà de ce que vous percevez consciemment. Dans notre corps, c'est la même chose. Il y a là aussi des zones qui sont pour nous terra incognita. Mais que font donc nos organes toute la sainte journée? Aucune idée, nous ne sentons rien de ce qui se passe. Mangeons par exemple une part de gâteau et voyons ce qui se passe. Dans la bouche, nous percevons encore le goût et la consistance du gâteau. Et nous sentons encore les quelques centimètres qui interviennent au début de la déglutition. Mais ensuite, Pouf! La bouchée de gâteau se volatilise. À partir de là, la matière disparaît dans une sorte de trou noir auquel la médecine a donné le nom très prosaïque de muscles lisses. Les muscles lisses ne sont pas soumis au contrôle volontaire. Au microscope, leur aspect diffère de celui des muscles que nous pouvons commander consciemment. Et c'est de là, d'ailleurs, qu'ils tiennent leur nom. Ils sont dépourvus des stries caractéristiques des muscles que nous contrôlons volontairement, tels le biceps. Sur les muscles que nous contrôlons, les muscles striés squelettiques, les bandes et les stries sont si bien ordonnées qu'on les croirait tracées à la règle. Les sous-unités des muscles lisses forment des réseaux organiques entrelacés qui ondulent en vagues harmonieuses. Les muscles lisses enveloppent aussi nos vaisseaux sanguins, et c'est ce qui explique que beaucoup d'entre nous rougissent quand ils se sentent mal à l'aise. Sous l'effet d'émotions comme la honte, les muscles lisses se relâchent et les vénules du visage se dilatent. À l'inverse, en situation de stress, la musculeuse des vaisseaux a tendance à se contracter. Les vaisseaux se resserrent et le sang doit alors forcer pour passer, ce qui peut induire une hypertension. Le tube digestif sait s'entourer d'alliés efficaces. Avec pas moins de 3 couches de muscles lisses, il est extrêmement souple dans ses mouvements et peut exécuter des chorégraphies différentes selon les endroits. Et le chorégraphe chargé de régler les pas et les figures de ses muscles, c'est le système nerveux viscéral.